Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr. Au sommaire aujourd'hui, une spéciale Rouge Profond, éditeur spécialisé, en grande partie en tout cas dans les ouvrages consacrés au cinéma et même un petit peu parfois à la cinéphilie déviante. Nous reviendrons sur Aurore de Dario Argento que Rouge Profond vient de publier. Donc nous reviendrons sur Aurore en compagnie donc de Guy Astic, le directeur de Rouge Profond, une maison d'édition qui vient de fêter ses 20 ans pour 100 livres édités. Hein, et qui vient donc de sortir Aurore, sous-titré donc Histoire de sang et d'esprit et de secret de Dario Argento. Et oui, ce sont les nouvelles de Dario Argento qui sont pour tout rattachées à des lieux, racontent des petites histoires fantastiques dans la tonalité un peu d'un Rod Serling. Mais vous en saurez plus dans l'échange qu'on va avoir avec Guy Astic. Donc Guy Astic, directeur des éditions Rouge Profond, qui a été co-rédacteur en chef de la revue Simulacre, qui a énormément écrit sur le cinéma, sur le fantastique, sur Stephen King aussi, entre autres, qui a réalisé des anthologies dans la collection Point Virgule, notamment Suite Fantastique, dans lequel il a réuni des nouvelles de Charles Nodier, de Roland Topor. Et puis, il a aussi travaillé sur Gunther Grass. Hein, il a publié La Tambour en littérature en 2004. Mais là, si on va à la rencontre de Guy Astic, c'est pour parler de son bébé, quoi, de sa maison d'édition, hein, Rouge Profond. Rouge Profond en hommage, bien sûr, au Profondo Rosso, les frissons d'angoisse de Dario Argento. Donc tout de suite, Guy Astic au micro de Culture Prohibée.
Quand on a fondé avec Jean-Baptiste Toré Rouge Profond, ça a été d'abord une association pour publier une revue qui s'appelait Simulacre. Donc c'était vraiment d'abord la culture revue, pas loin du fanzine, mais on voulait tout de suite une revue. Jean-Baptiste Toré était déjà journaliste, il était déjà ancré dans le présent, dans la critique de cinéma, etc. Moi j'étais déjà enseignant, et on s'était dit qu'il y avait une place, c'était en 98, on s'était dit qu'il y avait une place pour une revue d'analyse, un peu particulière, avec beaucoup de photogrammes, des analyses de plans, etc. Et on a pris du temps et on a lancé le numéro en 99. Et pour s'adosser à un nom, on a pensé à Rouge Profond. Enfin, c'est Jean-Baptiste Touré qui a pensé à Rouge Profond, évidemment, à l'époque, en hommage à Profondo Rosso, le film de Dario Argento, qui n'avait pas ce titre-là en France, mais qui était titré Les Frissons d'Angoisse. Donc voilà, on a lancé l'association qui a publié cette revue, donc qui a été publiée à hauteur de 8 numéros de 1999 à 2003. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais absolument pas le sentiment d'arriver peut-être un jour à 100 livres, mais je dois dire que moi personnellement, depuis l'âge de 10 ans à peu près, je veux être éditeur. Donc je voulais être professeur, je le suis, et je voulais être éditeur, et je le suis devenu. Et c'est quand Jean-Baptiste Thoré voulait passer à une revue mensuelle que moi j'ai dit je ne peux pas parce que je suis à plein temps dans l'enseignement. J'étais en collège, maintenant je suis en lycée. Et lui était aussi journaliste, donc on s'est dit que Rouge Profond pouvait se scinder en deux. D'un côté une revue, Jean-Baptiste était parti pour créer Panique, je crois qu'il a fait 5 numéros. Et de l'autre côté créer une maison d'édition dont le premier livre a été Why Not sur le cinéma américain qui était un collectif. Donc là, c'est encore une autre histoire, parce que quand vous créez une maison d'édition, je dirais bien aux auditeurs, tout le monde peut créer une revue, tout le monde peut créer une maison d'édition. Aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué avec les imprimeurs qui proposent des impressions à l'unité, pas chères, etc. Mais ce qui manque, ce qui est le nerf de la guerre, c'est le diffuseur-distributeur. C'est-à-dire se retrouver en librairie ou dans les kiosques pour la revue. Et donc, très rapidement, j'ai pu entrer en contact avec Harmonia Mundi, qui est un diffuseur-distributeur. Et à partir de, on va dire que c'était 2003, j'ai lancé le premier livre, Rouge Profond.
Oui, c'est effectivement à partir de 2003 que les livres arrivent. Il y a des collections d'ailleurs tout de suite. Parce que moi, je me rappelle bien de la revue Simulacre. Hein, c'est vrai qu'il avait été une petite révolution pour les amateurs de cinéma, surtout de cinéma de genre, parce qu'il n'était pas traité de cette manière-là ailleurs. Voilà, donc ça,
absolument, c'est... et en plus, tu as tout à fait raison, parce que ce qu'on voulait, en plus, si on reprend les simulacres, c'est qu'il n'y a pas que le cinéma de genre, mais en gros, on disait, on en a marre des catégories, on en a marre des hiérarchisations, d'un côté, entre guillemets, le cinéma noble, de l'autre, entre guillemets, le cinéma de genre, et on voulait dire, ben non, le cinéma de genre est un cinéma à part entière, qui a ses vertus, qui a ses noms, qui a ses créateurs, ses auteurs, etc. Et c'est vrai que la revue, on pouvait très bien, dans le même numéro, parler de Visconti, parler de Toby Hooper, et donner aussi beaucoup de place à l'image, au photogramme, et beaucoup de place aux entretiens, aussi de longs entretiens. Donc c'est vrai que la revue a marché et a suscité un peu de l'engouement, on va dire, parce qu'on était en kiosque très rapidement. Et c'était, je dois dire que c'était aussi une époque un petit peu, un âge d'or de la revue, hein, parce qu'il y en avait beaucoup indépendantes comme ça. Je pense à Thousand Augen, je pense à Synergon, des revues comme ça. Et il y a eu un moment comme ça d'effervescence autour des revues. Puis après, je pense qu'avec l'émergence d'Internet et autres, les revues ont un peu reculé. Ça revient aujourd'hui avec des revues de genre qui sont très très bonnes, je trouve, qui sont très pointues, parce que le public du cinéma de genre est un public fidèle et qui a besoin de certaines lectures. Mais voilà. Donc on était très contents pour ça, mais sincèrement, moi j'ai toujours voulu aussi le livre. Et la première collection qui a été lancée, c'était la collection Raccord. Avec l'idée, déjà, je me souviens, j'avais... très vite l'idée d'une sorte d'articulation en trois temps de la collection Raccord. À la fois, je voulais des livres qui soient des livres d'esthétique, analyse du cinéma, analyse d'image, etc. Avec quelque chose d'un peu historique aussi. Donc, c'était par exemple l'un des premiers livres, ça a été 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, l'assassinat de Kennedy dans le cinéma américain de Jean-Baptiste Thoré, qui a eu tout de suite d'ailleurs le prix du meilleur livre de cinéma de la critique de cinéma française. Donc, ça, il y avait le côté esthétique. Le deuxième pôle qui pour moi me paraissait évident, c'était l'idée un peu patrimoine, on va dire, du cinéma, c'est-à-dire donner des documents, faire de l'histoire du cinéma. Donc là aussi, l'un des deux premiers livres, ça avait été les scénarios de Jacques Tourneur avec un DVD qui recueillait le seul entretien filmé de Jacques Tourneur en France. Sont venus ensuite le journal de tournage de Suicide Badassong, de Melvin and Peebles, sont venus ensuite vraiment les très gros volumes sur l'histoire du cinéma hollywoodien, Hollywood classique, Hollywood moderne, voilà. Donc ça, il y a cet aspect-là, on va dire, historique, patrimonial. Et enfin, troisième aspect auquel je tiens beaucoup pour Rouge Profond, ce sont les livres d'entretien, les longs livres d'entretien. Et ça, c'est venu aussi assez vite avec le livre d'entretien avec Lalo Schifrin, le compositeur de musique. Et ensuite, il y a eu au catalogue le livre d'entretien avec Paul Verhoeven, le livre d'entretien avec Yoshi Kurosawa, le livre d'entretien qui va sortir là en septembre. C'est la grosse nouveauté avec Sonotion. Donc un livre de 400 pages. Grosso modo, les trois orientations de raccord. Puis après, sont venues d'autres collections.
D'ailleurs, il y a un très bon livre d'entretien avec Alex de la Ecclesia aussi.
Exactement, un livre d'entretien qui existait déjà d'une certaine façon, mais que j'ai repris et augmenté avec deux journalistes catalans spécialisés dans le cinéma espagnol. Et je trouve que ce livre d'entretien d'Alex de la Iglesia est magnifique. Et il a donné, par exemple, chaque fois dans les livres d'entretien, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus, les cinéastes donnent des documents. Paul Verhoeven a donné des storyboards, Alex de la Iglesia a donné des images inédites, Sonotion a ouvert ses armes. Archives, il donne aussi des images de lui, beaucoup, hein, voilà. Donc cet aspect livre d'entretien, moi j'y tiens beaucoup, et puis il y en aura d'autres qui sont prévus pour 2021-2022 aussi au niveau entretien.
Écoutez Culture Prohibée. Il y avait aussi les collections Birdland et Stanzik qui sont un peu à part chez
Alors Rouge. Oui, parce qu'en fait, dans l'histoire de Rouge Profond en tant que maison d'édition, quand Jean-Baptiste Auré est parti vers une revue, à l'époque, je travaillais au métier du livre, j'avais un cours, hein, simplement au métier du livre à Aix-en-Provence, et j'étais en lien avec Christian Tartin, qui était professeur au métier du livre, qui connaissait énormément... la fabrication du livre, comment éditer des livres, etc. Et il était partant pour cette aventure avec Rouge Profond. C'est lui qui m'a mis en contact avec Harmonia Mundi. Donc, c'est lui qui a déclenché vraiment cette chose indispensable d'avoir un diffuseur. Et lui-même avait déjà créé chez POL une collection sur le jazz qui s'appelait Birdland. Il l'a repris chez Rouge Profond. Ensuite, il avait voulu créer une collection plus esthétique, philosophique, qui était Stanzé. Mais il est parti en 2008 de la maison d'édition. En fait, depuis 2008, je suis tout seul chez Rouge Profond. Alors, on va dire que les premiers débuts, il y a eu les premiers débuts avec Jean-Baptiste Touré au niveau de la revue, ensuite premier début de la maison d'édition avec Christian Tartin, et à partir de 2008, j'ai pris les commandes seul de Rouge Profond.
Tu es devenu insomniaque depuis 2008, en gros.
Oui, je travaille beaucoup, c'est vrai, parce qu'en fait, je suis le lecteur des manuscrits, le correcteur. Parce que je suis une petite maison d'édition, donc peut-être on en parlera en termes de modèle économique, mais c'est une maison d'édition modeste, il n'y a pas d'employés, si tu veux. Je n'ai pas de masse salariale, moi je me paye moi de temps en temps, mais encore, mais je suis le correcteur, etc. Par contre, je rémunère les auteurs, je rémunère les maquettistes, des maquettistes avec qui je travaille depuis les débuts et qui font un travail formidable et qui donnent le cachet à Rouge Profond. Je sais que souvent Rouge Profond est loué pour la qualité d'impression, de la fabrication de ses livres, tout ça. Et je le dois beaucoup à Gilles et Yuta qui ont une maison de maquettes, de graphisme qui s'appelle Ici Ailleurs, une maison d'impression qui s'appelle Yé Noir et qui sont très experts en la matière. Donc ça aussi, une énorme chance d'avoir une immense expertise en termes de maquettes et d'édition.
Alors c'est vrai que les livres Rouge Pro, mais des simulacres, hein, il y avait une vraie
oui.
esthétique, hein, des vrais choix de maquettes, dans l'aspect aussi bien de la revue qu'ensuite les livres. Alors tu me citais les gens qui bossaient avec toi, mais c'est aussi une volonté, je suppose, de Jean-Baptiste et toi au départ, Jean-Baptiste Auré et toi, je pense que ça c'est vraiment volontaire, tu y tiens absolument.
De quoi
D'avoir cette esthétique particulière dans tes ouvrages.
Ah oui, mais avec Jean-Baptiste, on l'avait eu très tôt, hein, cette idée des photogrammes, on n'était pas nombreux à le faire. Il y a aussi Guillaume Blout qui le fait très bien chez Yellow Now. Mais on n'était pas à l'époque, je me souviens d'à l'époque de Simulacre, on n'était pas si nombreux que ça à le faire. Il y avait eu des choses qui avaient été faites dans des livres sur des analyses filmiques, tout ça, mais c'était ponctuel. Et nous, on l'a un peu généralisé, avec l'idée aussi de laisser de l'espace comme ça aux images, de les faire respirer. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Je ne sais pas si les lecteurs de Rouge Profond l'ont remarqué, mais chaque livre de Rouge Profond, je fais attention beaucoup aux marges extérieures, aux marges intérieures. Il y a du blanc, c'est-à-dire ça respire. On n'a pas l'impression de texte tassé, par exemple. C'est tout bête, mais si on prend d'autres livres, alors souvent c'est pour des raisons d'économie, pour réduire le nombre de pages, etc. Mais rien que ça, le fait de tasser les images, de passer le texte, on a moins ce sentiment de quelque chose d'un peu classe, d'un peu joli, et surtout de respiration des images. Et ça, c'est une chose à laquelle on tient beaucoup avec les maquettistes, de laisser ce qu'on appelle du gris, de laisser du blanc, de la marge, et de faire en sorte que les images respirent. Et c'est pour ça que Harmonia Mundi m'a souvent demandé si je voulais passer en numérique. Je leur ai dit, je veux bien peut-être à un moment donné passer en numérique pour les collections qui sont sans images. Souvent, c'est la collection des bords, on en reparlera sans doute. Mais moi, je reste vraiment à l'idée de l'objet, du papier, voilà, que ce soit le format raccord ou que ce soit les grands formats ou les formats beaux livres.
Oui, et puis comme c'est quand même une maison d'édition qui célèbre le beau, évidemment, ça fait sens, quoi. Je veux dire, des livres de cinéma sans photo, sans illustration, c'est assez. Moi, ça m'embête toujours un petit peu.
Oui, je sais qu'il y a beaucoup de très bons éditeurs, hein, attention. Hein, moi, j'aime beaucoup les gens qui sont à la tête de Playlist Society, les Prix Ordinaires, etc. Ou même Caprici, il y a vraiment de très bons livres. Je sais que c'est leur choix de ne pas mettre d'image parce que c'est un choix aussi économique de leur part. Ce sont des maisons où il y a des gens qui sont salariés, c'est plus compliqué. Mais moi, j'ai cette chance de ne pas être salarié et à la rigueur, à ses débuts, quand Rouge Profond n'allait pas trop bien, ben c'était moi, Guy Astic, enseignant, qui alimentait, on va dire, financièrement. Et aujourd'hui, ça va, ça s'équilibre, mais ça me permet de faire les livres que je fais, c'est-à-dire que je ne lésine pas sur le papier pour reproduire les images. Je peux acheter des images, des droits. On a le droit à la citation concernant les photogrammes. C'est un droit qui est vraiment... voilà, entériné, mais je lésine pas sur la fabrication. Et je sais que je devrais, même si les livres restent chers, j'en ai conscience pour certains, je devrais les vendre plus cher, mais je me permets de pas le faire parce que je n'ai pas ce poids de la masse salariale par ailleurs, voilà.
Et justement, c'est la question que je me pose, parce que bon, c'est vrai, tu dis les livres paraissent chers pour certains, mais en fait, toi, tu es un indépendant, tu peux peut-être d'ailleurs développer un peu plus sur le modèle économique que vous avez mis en place avec Rouge Profond. C'est une maison indépendante, et en même temps, moi, je trouve que par rapport à la taille de cette maison d'édition qui est modeste, il y a des beaux livres de produits, et en fin de compte, comparativement à d'autres éditeurs, vu le nombre d'illustrations, vu la pagination importante, vu la beauté des objets, moi je les trouve pas si chers que ça en fin de compte.
Ah non, mais c'est ce qu'on... Oui, moi quand je dis cher, parce que pour tout le monde ça reste un peu cher d'acheter un livre à 20-25 euros, surtout au début, moi je pense beaucoup aux étudiants, aux jeunes en cinéma, parce que moi j'enseigne aussi à la fac, enfin, j'ai des cours de cinéma, et je sais que moi j'essaye de parfois aux étudiants de brader un peu les retours que j'ai, des livres un peu abîmés, je leur cède, voilà. Mais je sais qu'en soi, les livres ne sont pas chers, parce que s'il y a de la qualité, il y a du rabat, il y a beaucoup d'iconographie, et en fait ça tient vraiment au modèle économique qui est simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas un salarié avec les charges à payer, etc., tu peux te permettre d'aller vers quelque chose d'un peu plus beau. Et puis, moi, je ne compte pas mes heures en termes de correction, etc. Ce qui coûte très cher aussi pour une maison d'édition, c'est les heures de correction. Donc, moi, je les assure, je m'en tire plutôt pas mal.
Vous écoutez Guy Astic, directeur de Rouge Profond, au micro de Culture Prohibée.
J'insiste beaucoup, j'ai la chance vraiment d'avoir des experts, donc Yenois ici et ailleurs, Gilles et Utah, parce qu'ils sont vraiment très experts, ils connaissent tout de la chaîne du livre, et pour la réalisation de certains livres qui auraient pu faire peur à n'importe quel éditeur, même Gallimard ou autre, eux ont débloqué beaucoup de choses. Je prends deux exemples. L'exemple de l'encyclopédie qui fait 4,3 kg de Jean-Pierre Andrevon, 100 ans de cinéma fantastique, de science-fiction. Gilles m'a orienté vers l'imprimeur italien qui pouvait faire cet Integra qui ne casserait pas. Voilà. Avec tel papier. La même chose, deuxième exemple, qui a valu à Rouge Profond, je dirais, quelque chose d'encore plus élogieux de la part des lecteurs, c'est Midi Minuit Fantastique. Et là, c'est pareil, c'est Gilles qui a trouvé la manière de faire Midi Minuit Fantastique, avec une pagination qui peut pas aller au-delà de 750 pages et intégration d'un DVD. Mais tout ça, ça paraît simple quand on l'a entre les mains. Mais ça a été des heures et ça a pris des années de réflexion avec Nicolas Standic, avec les maquettistes, tout ça. Donc j'ai la chance d'avoir ces gens-là qui me permettent d'une certaine façon de faire des économies aussi, pas de bêtises ou autre. Voilà. Et ça, c'est précieux.
Et oui, et puis en plus, t'en parlais à l'instant, ça donne des livres qu'on peut qualifier de livre culte, la série de livres sur Midi, Minuit, Fantastique. Alors pour différentes raisons, elle a permis aussi dans les DVD qui sont joints, tu parlais tout à l'heure du premier livre DVD avec Jack Tourneur qui présente une interview filmée de Jack Tourneur, mais dans les livres Midi, Minuit, tu as des DVD avec quand même des découvertes incroyables. Tu as quand même sorti donc le Dracula de Jean Boulet, le Fantasmagorie de Molinard, c'est quand même des découvertes incroyables pour les cinéphiles, et c'est vrai que ce sont des livres qui sont des livres, on peut le dire, des livres devenus cultes, quoi. Ils sont extraordinaires.
La revue était déjà culte, mais quand Nicolas Tandic et Michel Kahn m'ont présenté le projet, que j'ai vu tout de suite, c'est un projet qui allait coûter cher. Midi, Minuit, Fantastique, moi, me coûte de l'argent. C'est-à-dire, je n'en gagne pas, j'en perds un peu. Alors, j'en perds modestement, hein, mais en même temps, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire, Rouge Profond est aujourd'hui suffisamment solide pour perdre un peu d'argent sur cette entreprise qui est remarquable. Mais elle est remarquable parce que Nicolas Tandic, surtout lui, évidemment Michel Kahn, mais malheureusement il est décédé depuis, mais Nicolas Tandic a fait un travail extraordinaire, enfin, d'historien, etc. Et il s'adosse aussi à Softprod et à One, qui font un très beau travail aussi avec les archives du cinéma français, avec le CNC, pour retrouver les films, pour restaurer, voilà. C'est pour ça que ça nous a pris à chaque fois beaucoup de temps. Je sais que les lecteurs étaient impatients à chaque numéro. Bon, il y a eu aussi un problème personnel qui était lié aux attentats à un moment donné. Mais on fait en sorte de donner le plus beau des livres possibles. Et puis, quand on avait sorti le tome 1, on ne pouvait pas être en dessous du tome 1. Donc, à ce moment-là, à chaque fois, on essaye d'être dans l'excellence. Et c'est vrai qu'on est très content pour Midi, Minuit, Fantastique, parce que ce n'était pas simplement... On ne voulait pas être dans la publication d'un fac-similé, mais c'est vraiment l'idée d'une restauration moderne d'une revue que Nicolas a su me présenter comme une revue qui était encore d'un esprit moderne, même aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est le cas. Et je crois que c'est François Angelier qui avait encensé Midi, Minuit dans... l'émission Mauvais Genre, en disant que c'est vraiment une entreprise de restauration magnifique, et c'est vrai, c'est le mot. Et le dernier volume qui arrivera en 2021-2022, en plus on va proposer les deux numéros complètement inédits qui existent, hein, mais qui n'ont jamais été publiés, parce qu'à l'époque, Mini ou Losfeld avaient mis la clé sous la porte, les deux derniers numéros de Fantastique. Voilà, donc ça c'est... alors il faut vraiment tirer notre chapeau à Nicolas Tandic pour cet immense travail, et puis ce travail de collaboration aussi avec Softprod.
Oui, et donc aussi avec Erwan Le Gac, c'est vrai qu'ils font...
Erwan Le Gac, oui, qui fait de magnifiques bonus, qui est un monteur extraordinaire, voilà, qui fait un immense travail.
Et tu parlais à l'instant, alors effectivement moi... À part le numéro 8, j'avais toute la collection. Alors, je suis très impatient du coup de voir le dernier tome pour voir ces deux numéros que je n'ai jamais lu. Mais moi, je le dis en tant que lecteur de Midi, Minuit, Fantastique à la base, je trouve déjà que c'est vrai que c'est plus qu'un travail de restauration. Mais enfin, vous avez les pages en noir et blanc sont devenues des pages en couleur. Enfin, il y a plus de photos. Voilà.
À chaque fois que les photos existaient, Nicolas a démarché auprès de collectionneurs, bouteillers et d'autres. À chaque fois que les photos existaient en couleur, on les a passées en couleur. Il y a des pages en plus. Il y a les entr'actes Midi, Minuit, c'est-à-dire qu'il y a des textes en plus aussi. Donc, c'est vraiment à la fois redonner vie à une revue qui a existé et en montrer d'une certaine façon les prolongements le dernier numéro nous excite énormément parce que ce qui va être beau pour nous, c'est de faire une maquette qui n'existe pas mais dans l'esprit de Midi Minuit, puisque ces deux derniers numéros n'ont jamais été maquettés. Nicolas a les textes bruts, mais ça sera à nous de les maqueter, et ça c'est grisant. Parce qu'on va, être à la fois dans un état d'esprit de la collection Midi Minuit et en même temps être dans un état de création. We'll be right back.
vous écoutez Culture Prohibée spéciale Rouge Profond. Tu le disais aussi, tu citais François Angelier, donc de Mauvais Genre sur France Culture. Tu as la chance aussi, enfin vous avez, et c'est mérité, hein, les éditions Rouge Profond ont aussi la chance d'avoir eu très vite un soutien de la part de la critique, en particulier des émissions radio assez écoutées des cinéphiles, où tout de suite oui. On a mis en avant la qualité éditoriale quand même.
Oui, oui, oui. Ah ben oui, oui, oui. Alors François Angelier étant son émission étant vraiment l'émission qui suit le plus Midi Minuit, Rouge Profond, pardon, mais avec Midi Minuit, mais aussi bien d'autres livres. Mais c'est vrai que je me rappelle quand Michel Simon, Masque et la Plume, avait dit le meilleur éditeur de cinéma. Vous voulez que je mette des bandeaux en prenant la phrase. Christine Masson dans son émission du samedi matin aussi. Je sais que, et j'ai beaucoup de retours, je le dis très modestement, mais j'ai beaucoup de retours de gens de la radio ou même de la presse qui apprécient beaucoup cette qualité en fait. Voilà, c'est souvent mis en avant ce rapport. Après, qu'on aime ou pas tous les textes, ça c'est autre chose, le contenu, je veux dire.
Bien sûr.
Il y a des contenus qui sont plus pointus, on va dire, des contenus plus universitaires, il y a d'autres contenus qui sont plus accessibles. Mais ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément aussi. Mais au-delà de ça, à chaque fois, on me dit, oui, il y a vraiment une grande qualité éditoriale, et ça, j'y tiens beaucoup. Et c'est vrai que du coup, c'est ce qui attire beaucoup les auteurs. C'est-à-dire que, on va dire, à partir de 2005-2008, il y a eu une accélération concernant la proposition de manuscrits à Rouge Profond. C'est-à-dire que au début, évidemment, j'ai sollicité des gens que je connaissais, avec Jean-Baptiste, et ensuite, c'est venu naturellement. Mais depuis, je reçois une à deux propositions manuscrits par semaine.
D'accord.
Parce que des gens, beaucoup me disent, on vient vers vous parce qu'on voit que vous laissez de la place à l'iconographie, beaucoup. On voit que vous êtes attentif, que tout simplement ce sont de belles éditions. Et alors, je réponds beaucoup non en ce moment. Alors en ce moment, évidemment, je suis dur pour moi parce que je suis obligé de dire beaucoup de non parce que je suis plein jusqu'en 2022. et comme je suis toujours enseignant à temps plein, que je ne veux pas quitter l'enseignement parce que c'est quelque chose qui me nourrit, qui me forge et j'adore ça. Je ne peux pas faire plus de, c'est déjà beaucoup, plus de 6 à 8 livres par an. Et puis, quand dans ces 6 à 8 livres, vous avez une mini, voilà, c'est lourd, quoi. Je suis obligé de dire aux gens, alors, soit vous êtes patient, vous attendez. Alors, je peux de temps en temps glisser un livre en plus quand il est petit, etc. Mais en ce moment, je dois dire que je suis obligé de dire non. Je suis un peu en retard en ce moment dans mon calendrier éditorial. J'ai beaucoup de manuscrits qui sont déjà prêts. J'en ai qui sont en lecture, qui sont corrigés. Je demande à mes auteurs d'être un peu patients parce que, voilà, comme je suis tout seul, mais j'essaye de rattraper le retard et ensuite j'ai la pédale douce sur les manuscrits. Mais je pourrais ne vivre que de ça et faire 20 livres par an. Voilà, mais vivre que de ça, non, parce que, encore une fois, je vais garder l'enseignement.
Oui, non, mais bien sûr. Bah, et justement, bah oui, en plus, tu te rajoutes du travail. Tu le disais tout à l'heure, tu crées des collections. Et peux-tu revenir un peu, donc, justement, sur ce que tu as rapidement abordé tout à l'heure, Débord et Décor?
Alors oui, alors Débord, c'est venu un peu plus tard parce que, tout simplement, je recevais des manuscrits qui avaient le cinéma pour sujet, mais qui débordaient le cinéma. Ça m'est venu très naturellement, le titre Débord. Et j'en veux... Pour exemple, le livre « Tueur en série » que m'avait proposé Thierry Gendrock qui allait exactement dans ce cadre-là, parce que c'était à la fois une réflexion sur la figure du tueur en série dans les fictions, y compris le cinéma, mais en même temps, c'était une approche psychiatrique, parce que Thierry Gendrock est praticien, et il y avait aussi une approche liée à la littérature. Et ça a été le premier livre que j'ai lancé dans la collection, qui a très très bien marché. On avait mis en couverture, je crois que j'étais le premier à l'époque, j'aimais beaucoup Dexter, on avait mis en couverture Dexter, et ça avait tout de suite plu, marché. Voilà. Et donc la collection s'est mise en place comme ça, et dedans, je reçois des livres qui peuvent parler beaucoup de cinéma, comme le livre sur le found footage, comme le livre sur le torture porn, mais qui dépassent le propos du cinéma proprement dit. Et souvent sont aussi parfois des essais un peu plus pointus, on va dire, un peu plus universitaires, des approches plus théoriques. La trilogie de Jean-Michel Durafour autour de l'étrange créature du lac noir, du loup-garou ou de l'homme invisible sont des figures à la fois populaires, mais lui les utilise d'une manière à nourrir une théorie un peu plus pointue, plus philosophique. Voilà. Donc, j'avais besoin de cet espace-là. C'est pas forcément une collection illustrée. Elle peut avoir un cahier iconocentral. Là, est mis en maquette un livre sur The Thing de John Carpenter, mais dans une approche multi-artistique, on va dire, voire une approche théorique, qui va sortir en octobre. Voilà. Et donc, il y aura un cahier iconographique central. Et ensuite, décor. Ça m'est venu avec Sébastien Clergé, un ami que je connais depuis très longtemps, qui était projectionniste à Aix-en-Provence et programmateur. Et c'était l'idée de faire des livres que vous pouvez lire en prenant n'importe quel chapitre. Donc ça peut être des livres carnés, des livres fragments, etc. Vous pouvez lire le livre dans sa continuité, mais vous pouvez le lire aussi dans n'importe quel ordre. Et donc ça a donné décor plaît beaucoup par sa maquette qui est assez jolie, un peu entre guillemets, mais pas, c'est pas péjoratif de ma part, mais un peu précieuse, c'est-à-dire avec des petites choses d'un point de vue typographique ou autre, les images encadrées autonomes, etc. Et donc ça a donné par exemple le livre sur les vampires de Stéphane Dumeneldo, Miroir obscur, qui va d'ailleurs être remis en avant parce que là il va y avoir la grosse exposition des vampires à la Cinémathèque française. Mais ça a donné aussi le livre sur Springsteen et le cinéma, Bob Dylan et le cinéma, David Fincher et la photo, donc voilà. Et je suis assez content aussi de cette collection, et moi-même j'y ai publié dedans ce que j'appelle Images et mots de l'horreur, de Tom. Et je sais que j'en ferai plusieurs parce que j'ai été amené à écrire beaucoup d'articles, ou j'en écris encore, sur le cinéma de genre, et des articles qui portent aussi bien sur la littérature, le cinéma, la peinture, les séries télé. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre dans ce type de publication-là. Voilà. Donc, moi, j'ai fait deux livres qui sont Territoire de l'effroi et Outrance et ravissement. Et c'est Images et mots de l'horreur 1, Images et mots de l'horreur 2. Et je sais qu'en 2021, je ferai deux autres tomes aussi. Voilà, ce sera 3 et 4.
J'ai aussi travaillé sur David Lynch.
Ah oui, j'avais publié, à l'époque, il y a très longtemps, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Toré chez Dreamland, j'avais publié une première version d'un livre sur Lost Highway. Dreamland s'est cassé la gueule, a fermé, et j'ai repris mon manuscrit, j'ai fait une édition augmentée du livre sur Lost Highway, et ensuite j'ai fait un livre sur Twin Peaks, qui s'avère être le livre d'ailleurs qui marche le mieux chez Rouge Profond, mais parce que David Lynch, parce que Twin Peaks, et parce qu'il y a eu la troisième saison de Twin Peaks il y a 2 ans, et que ça a relancé, du coup j'en ai revendu de nouveau 500 exemplaires. Ça a relancé les ventes, voilà. Et c'est vrai que je pense que je ferai un jour, j'attends encore un peu, je ferai un jour une version augmentée en mettant la troisième saison, mais en l'état, voilà, c'est pas mon projet.
vous écoutez Culture Prohibée. Si on va sur le site de Rouge Profond, il y a une citation de toi hein, qui dit « L'édition a pour moi la beauté d'une route,
oui.
plongeant dans la nuit, mais pas n'importe laquelle, celle de David Lynch, vouée au grand nocturne, qui est une invitation à se perdre dans l'envers des décors et dans l'absence de repos des apparences. » David Lynch, pour toi, c'est un cinéaste très important.
Oui, ah oui, oui, oui. Alors, très important, en lien d'ailleurs avec Rouge Profond. Parce que c'est par David Lynch que j'ai connu Jean-Baptiste Auré, parce qu'en 1998, j'ai participé à un colloque international à Fontaine, en Belgique, sur la littérature, sur le cinéma de genre, pardon. Et moi, j'avais proposé quelque chose autour de Lost Highway. Je commençais à travailler sur Lost Highway. Et là, Jean-Baptiste Auré intervenait, il y avait Philippe Rouillet, il y avait Jean-François Roger, enfin, on était nombreux. Et c'est lors d'un repas bien arrosé, qui a suivi, qui était durant le colloque, que j'ai beaucoup discuté avec Jean-Baptiste Auré, qui me disait « il manque une revue ». On a beaucoup sympathisé, et c'est comme cela que la revue Simulacre est née. Et en même temps, Jean-Baptiste Auré sortait à l'époque « Mythes et masques », son livre avec Luc Lagier sur John Carpenter. Moi, j'en ai fait une chronique dans une revue qui s'appelait « Phoenix », qui a beaucoup plu à Jean-Baptiste. Et lui-même, Jean-Baptiste, créait une collection chez Dreamland, un livre, un film. Et lui avait fait « Massacre à la tronçonneuse » et il m'avait demandé, parce que ça l'intéressait sur Lost Highway, de faire Lost Highway. Donc, d'une certaine façon, j'adore David Lynch parce que c'est un cinéaste que je trouve immense, qui est vraiment dans le cinéaste du mystère à l'état pur. Pas de l'énigme, du mystère, c'est-à-dire ce qu'on ne résout pas, mais qui engendre, qui suscite pour le cinéma des représentations visuelles et sonores complètement folles, complètement inédites, et qui empêchent de se reposer. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de ne pas se reposer sur les apparences. Et donc, David Lynch m'accompagne énormément, et ça m'accompagne aussi dans mon trajet d'éditeur, c'est-à-dire que j'ai à la fois mes passions, etc., mais j'espère, hein, pour l'instant, j'espère ne pas me reposer voilà, sur mes lauriers, et d'être toujours un peu dans le risque, dans l'intuition. J'en donne un exemple, c'est le livre que j'ai fait sur les Redneck Movies avec Maxime Lachaud. Au départ, Maxime, qui a fait un livre magnifique sur les Redneck Movies, parce que c'est un livre d'histoire du cinéma américain, mais on va dire indépendant, ou du cinéma underground, ou du cinéma bis, voilà, et d'une autre histoire du cinéma américain. Et à l'époque, c'était l'idée de le faire dans la collection habituelle de Raccord, au format habituel de Raccord. Et quand Maxime m'a montré toute l'iconographie qu'il avait, tout le propos, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas en rester là. Et là, j'ai fait le livre, un plus beau livre, grand format, avec le titre un peu bosselé, qui coûte un peu plus cher, etc. Et on m'a dit, mais t'es complètement fou, faire un livre comme ça sur les Redneck Movies. Voilà. Or, c'est un titre qui marche bien, qui est quasiment à 1000 exemplaires vendus, qui est reconnu, qui est une référence absolue. Je me rappelle que Virginie Despentes, à l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard, qui à chaque fois demande à ses invités de leur parler d'un livre qu'il a lu, et Virginie Despentes a dit, en une minute, voilà, j'ai lu le livre le plus fou, etc., les Redneck Movies, édité par Roche Profond, cet éditeur est taré, il a osé sortir ça en beau livre, etc. Et c'est vrai que ça a marché. Voilà. Et à chaque fois, je suis un petit peu là-dedans, d'aller vers des livres, le premier livre sur Guillermo del Toro, les choses comme ça, quoi. Voilà. J'essaye.
En parlant de Redneck Movies, nous on l'avait beaucoup soutenu dans l'émission. C'est vrai que c'est un livre qu'on avait particulièrement bien aimé. Et Maxime Lachaud est revenu du coup pour parler d'autres choses dans l'émission aussi. C'était assez sympathique, je me rappelle. Et c'est vrai que ce livre est un livre de référence, on peut le dire, en plus sur un sujet qui était pour le coup complètement, enfin jamais traité, quoi. Hein,
Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose. Une chose à laquelle je tiens, et même si certains projets, je ne les ai pas réalisés, parce qu'il y a des projets où j'essaye de trouver des financements, je n'en ai pas trouvé. Il y a un projet de livre que je voulais faire avec Pascal Français que j'adore, etc., autour du camp. Alors j'espère qu'il va se faire ailleurs, mais j'avais demandé une subvention que je n'ai pas obtenue. C'est un projet qui coûte très cher à faire, mais le livre est remarquable, mais vraiment. Et c'est quelque chose qui me... Voilà, j'aurais aimé vraiment le faire un peu plus, mais j'avais un peu peur que ça me fragilise beaucoup. Voilà.
D'accord.
Et comme je sais que j'ai des fragilités liées à Midi Minuit, elles sont modestes, hein, mais il y a quand même des fragilités financières. Il ne faut pas trop que je sois non plus... Voilà, je fasse n'importe quoi.
Oui, pas trop de risques. Il y a un autre cinéaste, on parlait de David Lynch, il y a un autre cinéaste qui est donc lié à cette maison d'édition Rouge Profond, de par le nom, c'est Dario Argento. Hein, donc ça a dû être quelque chose quand même de devenir l'éditeur de Dario Argento en France, déjà de son autobiographie, qui est excellente d'ailleurs et qui peut plaire y compris à des gens qui ne connaissent pas son cinéma ou...
Absolument,
qui ne l'aime pas.
Absolument.
C'est vraiment un super bouquin de... Voilà, moi je le trouve passionnant. Et puis là, il y a ces nouvelles que je viens de lire, donc Aurore, Histoire de sang, d'esprit et de secret, qui sont des nouvelles, moi, qui m'ont enthousiasmé. Alors, les premières, bon, il y en a une qui fait un peu le lien avec son cinéma, Une nuit aux offices, avec un lien vers le syndrome de Stendhal. Après, je trouve que les nouvelles ont un petit côté quatrième dimension, creepy, eerie.
Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec cette lecture-là. Il y a quelque chose qui a à voir avec ça. Elles sont inégales, hein. Moi, il y a des nouvelles que je préfère, mais j'ai été agréablement surpris parce que quand Bianca, la traductrice de Peur, parce que c'est vrai que pour revenir à l'histoire dont tu parles, pour moi ça a été extrêmement émouvant parce que Peur, ça a été une idée qui a été lancée par Denis Mélier, qui est professeur de littérature et de cinéma à l'université de Poitiers. Il voulait faire quelque chose autour de Dario Argento, l'inviter dans le cadre d'un colloque un peu universitaire, et il me dit, tu sais, il y a Paura qui a été publié en Italie, je crois que ça a été publié en 2014, l'autobiographie d'Ario Argento, ça serait peut-être bien d'envisager cela. Et alors là, moi, je me suis lancé tout de suite, j'ai dit oui, banco, grâce à Denis qui a vraiment lancé cette idée-là, et qui en plus avait sous la main une collègue, Bianca Concolino, qui est aussi enseignante d'université, et qui est traductrice. Et donc, elle a très très vite mis en lien avec l'éditeur italien, j'ai acheté les droits, et très rapidement, Dario Argento a été conquis, et en plus, on m'a rapporté que très vite, il était ravi que ce soit publié chez un éditeur qui s'appelle Rouge Profond. Donc voilà, et en plus, il savait que ça avait été lancé avec Jean-Baptiste Torré, il a des liens très étroits avec Jean-Baptiste Torré, qui vient de faire son documentaire sur lui, donc voilà.
Vous écoutez Guy Astic au micro de Culture Prohibée. Moi, personnellement, la nouvelle sur Gilles de Rais m'a beaucoup plu. Hein.
Oui, très belle. Oui. En plus, via cette construction, je trouvais que la construction dramatique, c'est-à-dire de l'histoire, elle est bien parce qu'à la fois, on est du point de vue de Gilles de Rais, puis on est du point de vue d'une petite qui est enfermée. Il y a une alternance comme ça entre Gilles de Rais et ses comparses et de la petite. Et il y a une tension qui monte. Je la trouve très intéressante. Et de toute façon, c'est aussi un univers qui est propre à Dario Argento, cette idée de la déviance, de la violence faite aux plus faibles, et en même temps aussi, comment dire, Gilles de Rais, qui était omnubilé par la pierre philosophale, par quelque chose lié à l'ésotérisme, et Dario Argento a creusé ce sillon tant et plus, hein, dans son cinéma.
Oui, alors... à un moment, il faut conclure, parce qu'on a une émission qui dure une heure, mais c'est très bien. On a pu échanger sur beaucoup de choses. Et je voulais terminer par un dernier point. Tu parlais tout à l'heure tu as commencé sous forme d'une revue, donc Simulacre. Et Rouge Profond publie toujours des revues. Je pense à Ciné Bazar, par exemple. Mais il y a aussi des choses qui vont arriver.
Alors ça aussi, je suis très content. C'est comme si... il y avait une boucle qui s'opérait et un retour aux sources. Donc d'abord, ce retour aux sources a été fait avec la revue Tête à Tête, qui est une revue éditée par les gens. Je ne sais pas si tu as connu, que moi j'adorais cette revue qui s'appelait La Voix du Regard. et qui était une revue qui avait aussi des numéros sur le cinéma, et qui, La Voix du Regard existait à l'époque aussi de Simulacre, une excellente revue, et en fait c'est le comité de réaction, les créateurs de La Voix du Regard qui ont fait tête à tête, qui étaient d'abord au bord de l'eau, et puis Anne Guillot, la directrice des publications, la rédactrice en chef ayant déménagé à Aix-en-Provence, on s'est rapprochés, et elle est venue chez Rouge Profond, et là je vais sortir le 3e numéro chez Rouge Profond, donc le numéro 10 de la revue Tête à Tête. Donc ensuite il y a eu Thomas Révé qui a fait un excellent travail sur Ciné Bazar, qui a existé depuis le numéro 6 chez Leitmotiv, et qui voulait une diffusion un peu plus large avec un vrai diffuseur-distributeur, donc moi je l'avais avec Harmonia Mundi, et là pareil, il est venu chez moi. Chaque fois ce sont des revues annuelles. Et là, je viens de créer avec La Fémis et Caroline Saint-Martin une revue de La Fémis. Ce sera le premier numéro, la revue de La Fémis, qui est partie en maquette là, et qui va être, le premier numéro va être sur la réalité virtuelle. Donc encore une autre revue annuelle, pareil. Donc je suis très content de cela, sachant que l'économie des revues sont des économies difficiles, on ne vend pas ça comme un livre, mais bon, Ciné Bazar par exemple est très implanté déjà, parce que Thomas Révé a montré que sa revue était de grande qualité avec ses entretiens de fond, et on poursuit.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, avec le renfort à la technique de Léo Magnien, alias The Last But Not The Least. Salut les gens, à la prochaine.